Chapitre 3. Yvette aussi ne dormait point. Comme sa mère, elle s'accouda à la fenêtre ouverte, et des larmes, ses premières larmes tristes, lui emplirent les yeux. Jusque-là, elle avait vécu, elle avait grandi dans cette confiance étourdie et sereine de la jeunesse heureuse. Pourquoi aurait-elle songé, réfléchi, cherché? Pourquoi n'aurait-elle pas été une jeune fille comme toutes les jeunes filles? Pourquoi un doute? Pourquoi une crainte? Pourquoi des soupçons pénibles lui seraient-ils venus? Elle semblait instruite de tout parce qu'elle avait l'air de parler de tout, parce qu'elle avait pris le ton, l'allure, les mots osés des gens qui vivaient autour d'elle. Mais elle n'en savait guère plus qu'une fillette élevée en un couvent. Ses audaces de parole venant de sa mémoire, de cette faculté d'imitation et d'assimilation qu'ont les femmes, et non d'une pensée instruite et devenue hardie. Elle parlait de l'amour comme le fils d'un peintre ou d'un musicien parlerait peinture ou musique à 10 ou 12 ans. Elle savait, ou plutôt elle soupçonnait bien, quel genre de mystère cachait ce mot. Trop de plaisanteries avaient été chuchotées devant elle pour que son innocence n'eût pas été un peu éclairée, mais comment aurait-elle pu conclure de là que toutes les familles ne ressemblaient pas à la sienne? On baisait la main de sa mère avec un respect apparent. Tous leurs amis portaient des titres. Tous étaient ou paraissaient riches. Tous nommaient familièrement des princes de lignée royale. Deux fils de roi étaient même venus plusieurs fois le soir chez la marquise. Comment aurait-elle su? Et puis elle était naturellement naïve. Elle ne cherchait pas, elle ne flairait point les gens comme faisait sa mère. Elle vivait tranquille, trop joyeuse de vivre pour s'inquiéter de ce qui aurait peut-être paru suspect à des êtres plus calmes, plus réfléchis, plus enfermés, moins expansifs et moins triomphants. Mais voilà que tout d'un coup, Servigny, par quelques mots dont elle avait senti la brutalité sans la comprendre, venait d'éveiller en elle une inquiétude subite, irraisonnée d'abord, puis une appréhension harcelante. Elle était rentrée, elle s'était sauvée à la façon d'une bête blessée, blessée en effet profondément par ces paroles qu'elle se répétait sans cesse, pour en répénétrer tout le sens, pour en deviner toute la pensée, la portée. « Vous savez bien qu'il ne peut pas s'agir de mariage entre nous, mais d'amour. » Qu'avait-il voulu dire? Et pourquoi cette injure? Elle ignorait donc quelque chose, quelque secret, quelque honte? Elle était seule à l'ignorer, sans doute, mais quoi? Elle demeurait effarée, atterrée, comme lorsqu'on découvre une infamie cachée, la trahison d'un être aimé, hein, de ces désastres du cœur qui vous affolent. Et elle avait songé, réfléchi, cherché, pleuré, mordu de crainte et de soupçons. Puis son âme jeune et joyeuse s'arrassérénant, elle s'était mise à arranger une aventure, à combiner une situation anormale et dramatique, faite de tous les souvenirs des romans poétiques qu'elle avait lus. Elle se rappelait des péripéties émouvantes, des histoires sombres et attendrissantes, qu'elle mêlait, dont elle faisait sa propre histoire, dont elle embellissait le mystère entrevu enveloppant sa vie. Elle ne se désolait déjà plus, elle rêvait, elle soulevait des voiles, elle se figurait des complications invraisemblables, mille choses singulières, terribles, séduisantes quand même, par leur étrangeté. Serait-elle par hasard la fille naturelle d'un prince? Sa pauvre mère, séduite et délaissée, faite marquise par un roi, par le roi Victor Emmanuel peut-être, avait dû fuir devant la colère de sa famille. Mais n'était-elle pas plutôt une enfant abandonnée par ses parents, par des parents très nobles et très illustres, fruit d'un amour coupable, recueilli par la marquise qui l'avait adoptée et élevée? Et d'autres suppositions encore lui traversaient l'esprit. Elle les acceptait ou les rejetait au gré de sa fantaisie. Elle s'attendrissait sur elle-même, heureuse au fond et triste aussi, satisfaite surtout de devenir une sorte d'héroïne de livre qui aurait à se montrer, à se poser, à prendre une attitude noble et digne d'elle. Et elle pensait au rôle qu'il lui faudrait jouer selon les événements devinés. Elle le voyait vaguement, ce rôle, pareil à celui d'un personnage de M. Scribe ou de Mme Sand. Il serait fait de dévouement, de fierté, d'abnégation, de grandeur d'âme, de tendresse et de belles paroles. Sa nature mobile se réjouissait presque de cette attitude nouvelle. Elle était demeurée jusqu'au soir à méditer sur ce qu'elle allait faire, cherchant comment elle s'y prendrait pour arracher la vérité à la marquise. Et quand fut venue la nuit, favorable aux situations tragiques, elle avait enfin combiné une ruse simple et subtile pour obtenir ce qu'elle voulait. C'était de dire brusquement à sa mère que Servigny l'avait demandé en mariage. À cette nouvelle, Madame Aubardy, surprise, laisserait certainement échapper un mot, un cri, qui jetait une lumière dans l'esprit de sa fille. Et Yvette avait aussitôt accompli son projet. Elle s'attendait à une explosion d'étonnement, à une expansion d'amour, à une confidence pleine de gestes et de larmes. Mais voilà que sa mère, sans paraître stupéfaite ou désolée, n'avait semblé qu'ennuyée, et au ton gêné, mécontent et troublé qu'elle avait pris pour lui répondre, la jeune fille, chez qui s'éveillait subitement toute l'astuce, la finesse et la rouerie féminine, comprenant qu'il ne fallait pas insister, que le mystère était d'autre nature, qu'il lui serait plus pénible à apprendre et qu'elle le devait deviner toute seule, était rentrée dans sa chambre, le cœur serré, l'âme en détresse, accablée maintenant sous l'appréhension d'un vrai malheur, sans savoir au juste où ni pourquoi lui venait cette émotion. Et elle pleurait, accoudée à sa fenêtre. Elle pleura longtemps, sans songer à rien maintenant, sans chercher à rien découvrir de plus. Et peu à peu, la lassitude l'accablant, elle ferma les yeux. Elle s'assoupissait alors quelques minutes de ce sommeil fatigant des gens éreintés qui n'ont point l'énergie de se dévêtir et de gagner leur lit, de ce sommeil lourd et coupé par des réveils brusques quand la tête glisse entre les mains. Elle ne se coucha qu'aux premières lueurs du jour, lorsque le froid du matin la glaçant la contraignit à quitter la fenêtre. Elle garda le lendemain et le jour suivant une attitude réservée et mélancolique. Un travail incessant et rapide se faisait en elle, un travail de réflexion. Elle apprenait à épier, à deviner, à raisonner. Une lueur, au vague encore, lui semblait éclairer d'une nouvelle manière les hommes et les choses autour d'elle. Et une suspicion lui venait contre tout ce qu'elle avait cru, contre sa mère. Toutes les suppositions, elle les fit en ces deux jours. Elle envisagea toutes les possibilités, se jetant dans les résolutions les plus extrêmes avec la brusquerie de sa nature changeante et sans mesure. Le mercredi, elle arrêta un plan, toute une règle de tenue et un système d'espionnage. Elle se leva le jeudi matin, avec la résolution d'être plus rouée qu'un policier et armée en guerre contre tout le monde. Elle se résolut même à prendre pour devise ces deux mots « moi seul ». Et elle chercha pendant plus d'une heure de quelle manière il les fallait disposer pour qu'il fisse bon effet, gravé autour de son chiffre, sur son papier à lettres. Saval et Servigny arrivèrent à 10 heures. La jeune fille tendit sa main avec réserve, sans embarras, mais d'un ton familier bien que grave. Bonjour, Muscade, ça va bien? Bonjour, mademoiselle, pas mal, et vous? Il la guettait. Quelle comédie va-t-elle me jouer, se disait-il. La marquise ayant pris le bras de Saval, il prit celui d'Yvette, et ils se mirent à tourner autour du gazon, paraissant et disparaissant à tout moment derrière les massifs et les bouquets d'arbres. Yvette allait d'un air sage et réfléchi, regardant le sable de l'allée, paraissant à peine écouter ce que disait son compagnon et n'y répondant guère. Tout à coup, elle demanda: Êtes-vous vraiment mon ami, Muscade? Parbleu, mademoiselle. Mais là, vraiment, vraiment, bien vraiment de vraiment. Mais tout entier votre ami, mademoiselle, corps et âme. Jusqu'à ne pas mentir une fois seulement, même deux fois s'il le faut. Jusqu'à me dire toute la vérité, la sale vérité tout entière. Oui, mademoiselle. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez au fond, tout au fond, du prince Kravalov? Oh, diable! Vous voyez bien que vous vous préparez déjà à mentir. Non pas, mais je cherche mes mots, les mots bien justes. Mon Dieu, le prince Kravalov est un Russe, un vrai Russe, qui parle russe, qui est né en Russie, qui a eu peut-être un passeport pour venir en France et qui n'a de faux que son nom et que son titre. Elle le regardait au fond des yeux. Vous voulez dire que c'est... Il hésita puis se décida. Oui, un aventurier, mademoiselle. Merci. Et le chevalier Valréali ne vaut pas mieux, n'est-ce pas? Ah, vous l'avez dit. Et monsieur de Bellevigne? Ah, celui-là, c'est autre chose. C'est un homme du monde, de province honorable, jusqu'à un certain point, mais seulement un peu brûlé pour avoir trop rôti le balai. Et vous? Il répondit sans hésiter. Moi, oh, je suis ce qu'on appelle un fêtard, un garçon de bonne famille, qui avait de l'intelligence et qui l'a gâché à faire des mots, qui avait de la santé et qui l'a perdu à faire la noce, qui avait de la valeur peut-être et qui l'a semé à ne rien faire. Il me reste en tout et pour tout de la fortune, une certaine pratique de la vie, une absence de préjugés assez complète. Un large mépris pour les hommes, y compris les femmes, un sentiment très profond de l'inutilité de mes actes et de vaste tolérance pour la canaillerie générale. J'ai cependant par moments encore de la franchise, comme vous le voyez, et je suis même capable d'affection, comme vous le pourriez voir. Avec ses défauts et ses qualités, je me mets à vos ordres, mademoiselle, moralement et physiquement. Pour que vous disposiez de moi à votre gré, voilà. Elle ne riait pas. Elle écoutait, scrutant les mots et les intentions. Elle reprit. Qu'est-ce que vous pensez de la comtesse de Lamy? Il prononça avec vivacité. Oh, vous me permettrez de ne pas donner mon avis sur les femmes. Sur aucune? Sur aucune. Alors, c'est que vous les jugez fort mal, toutes. Voyons, cherchez-vous. Ne faites pas une exception. Il ricana de cet air insolent qu'il gardait presque constamment, et avec cette audace brutale dont il se faisait une force, une arme. Oh, on accepte toujours les personnes présentes. Elle rougit un peu, mais demanda avec un grand calme. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de moi? Vous le voulez, soit. Je pense que vous êtes une personne de grand sens, de grande pratique, ou si vous aimez mieux, de grand sens pratique, qui sait fort bien embrouiller son jeu. s'amuser les gens, cacher ses vues, tendre ses fils et qui attend sans se presser l'événement. Elle demanda, c'est tout? C'est tout. Alors elle dit avec une sérieuse gravité, je vous ferai changer cette opinion-là, Muscade. Puis elle se rapprocha de sa mère qui marchait d'un tout petit pas, la tête baissée, de cette allure alanguie qu'on prend lorsqu'on cause tout bas en se promenant de choses très intimes et très douces. Elle dessinait, tout en avançant, des figures sur le sable, des lettres peut-être avec la pointe de son ombrelle, et elle parlait sans regarder sa valle. Elle parlait longuement, lentement, appuyée à son bras, serrée contre lui. Yvette, tout à coup, fixa les yeux sur elle, et un soupçon, aussi vague qu'elle ne le formula pas, plutôt même une sensation qu'un doute, lui passa dans la pensée, comme passe sur la terre l'ombre d'un nuage que chasse le vent. La cloche sonna le déjeuner. Il fut silencieux et presque morne. Il y avait, comme on dit, de l'orage dans l'air. De grosses nuées immobiles semblaient embusquées au fond de l'horizon, muettes et lourdes, mais chargées de tempêtes. Dès qu'on eut pris le café sur la terrasse, la marquise demanda « Eh bien, mignonne, vas-tu faire une promenade aujourd'hui avec ton ami Servigny ? C'est un vrai temps pour prendre le frais sous les arbres. » Yvette lui jeta un regard rapide, vite détourné. « Non, maman, aujourd'hui je ne sors pas. » La marquise parut contrariée, elle insista. « Va donc faire un tour, mon enfant, c'est excellent pour toi. » Alors Yvette prononça d'une voix brusque. « Non, maman, non, aujourd'hui je reste à la maison. » Et tu sais bien pourquoi, puisque je te l'ai dit l'autre soir. Madame Bobardy n'y changeait plus, toute préoccupée du désir de demeurer seule avec sa valle. Elle rougit, se troubla, et inquiète pour elle-même, ne sachant comment elle pourrait se trouver libre une heure ou deux, elle balbutia. « Oh, c'est vrai, je n'y pensais point, tu as raison. Oh, je ne sais pas où j'avais la tête. » Et Yvette, prenant un ouvrage de broderie qu'elle appelait « Le salut public », et dont elle occupait ses mains 5 ou 6 fois l'an, au jour de calme plat, s'assit sur une chaise auprès de sa mère, tandis que les deux jeunes gens, à cheval sur des pliants, fumaient des cigares. Les heures passaient dans une causerie paresseuse et sans cesse mourante. La marquise, énervée, jetait à sa valle des regards éperdus, cherchait un prétexte, un moyen d'éloigner sa fille. Elle comprit enfin qu'elle ne réussirait point. Et ne sachant de quelle ruse user, elle dit à Servigny « Vous savez, mon cher duc, je vous garde tous deux ce soir. Nous irons déjeuner demain au restaurant Fournaise à Chatou. » Il comprit, sourit et s'inclinant. « Oh, je suis à vos ordres, marquise. » Et la journée s'écoula lentement, péniblement, sous les menaces de l'orage. L'heure du dîner vint peu à peu. Le ciel pesant s'emplissait de nuages lents et lourds. Aucun frisson d'air ne passait sur sa peau. Le repas du soir aussi fut silencieux. Une gêne, un embarras, une sorte de crainte vague semblait rendre muets les deux hommes et les deux femmes. Quand le couvert fut enlevé, ils demeurèrent sur la terrasse, ne parlant qu'à de longs intervalles. La nuit tombait, une nuit étouffante. Tout à coup, l'horizon fut déchiré par un immense crochet de feu qui illumina d'une flamme éblouissante et blafarde les quatre visages déjà ensevelis dans l'ombre. Puis un bruit lointain, un bruit sourd et faible, pareil au roulement d'une voiture sur un pont, passa sur la terre, et il sembla que la chaleur de l'atmosphère augmentait, que l'air devenait brusquement encore plus accablant, le silence du soir plus profond. Yvette se leva. « Je vais me coucher, » dit-elle. « L'orage me fait mal. » Elle tendit son front à la marquise, offrit sa main aux deux jeunes hommes et s'en alla. Comme elle avait sa chambre juste au-dessus de la terrasse, les feuilles d'un grand marronnier planté devant la porte s'éclairèrent bientôt d'une clarté verte, et Servigny restait les yeux fixés sur cette lueur pâle dans le feuillage où il croyait parfois voir passer une ombre. Mais soudain la lumière s'éteignit. Madame Aubardy poussa un grand soupir. « Ah, ma fille est couchée, » dit-elle. Servigny se leva. Oh, « Je vais en faire autant, marquise, si vous le permettez. » Il baisa la main qu'elle lui tendait et disparut à son tour. Et elle demeura seule avec Saval dans la nuit. Aussitôt, elle fut dans ses bras, l'enlaçant, l'étreignant. Puis, bien qu'il tentât de l'en empêcher, elle s'agenouilla devant lui en murmurant « Je veux te regarder à la lueur des éclairs !» Mais Yvette, sa bougie soufflée, était revenue sur son balcon, nu-pied, glissant comme une ombre, et elle écoutait, rongée par un soupçon douloureux et confus. Elle ne pouvait voir, se trouvant au-dessus d'eux, sur le toit même de la terrasse. Elle n'entendait rien qu'un murmure de voix, et son cœur battait si fort qu'il emplissait de bruit ses oreilles. Une fenêtre se ferma sur sa tête, donc Servigny venait de remonter. Sa mère était seule avec l'autre. Un second éclair, fendant le ciel en deux, fit surgir pendant une seconde tout ce paysage qu'elle connaissait dans une clarté violente et sinistre. Et elle aperçut la grande rivière, couleur de plomb fondu, comme on rêve des fleuves en des pays fantastiques. Aussitôt, une voix au-dessous d'elle prononça « Je t'aime !» Et elle n'entendit plus rien. Un étrange frisson lui avait passé sur le corps et son esprit flottait dans un trouble affreux. Un silence pesant, infini, qui semblait le silence éternel, planait sur le monde. Elle ne pouvait plus respirer, la poitrine oppressée par quelque chose d'inconnu et d'horrible. Un autre éclair enflamma l'espace. Illumina un instant l'horizon, puis un autre presque aussitôt le suivit, puis d'autres encore. Et la voix qu'elle avait entendue déjà, s'élevant plus forte, répétait « Oh, comme je t'aime, comme je t'aime !» Et Yvette la reconnaissait bien, cette voix-là, celle de sa mère. Une large goutte d'eau tiède lui tomba sur le front, et une petite agitation presque imperceptible courut dans les feuilles, le frémissement de la pluie qui commence. Puis une rumeur accourut, venue de loin, une rumeur confuse, pareille au bruit du vent dans les branches. C'était la verse lourde s'abattant en nappes sur la terre, sur le fleuve, sur les arbres. En quelques instants, l'eau ruissela autour d'elle, la couvrant, l'éclaboussant, la pénétrant comme un bain. Elle ne remuait point, songeant seulement à ce qu'on faisait sur la terrasse. Elle les entendit qui se levaient et qui montaient dans leur chambre. Des portes se fermèrent à l'intérieur de la maison. Et la jeune fille, obéissant à un désir de savoir irrésistible qui l'affolait et la torturait, se jeta dans l'escalier, ouvrit doucement la porte du dehors et, traversant le gazon sous la tombée furieuse de la pluie, courut se cacher dans un massif pour regarder les fenêtres. Une seule était éclairée, celle de sa mère. Et tout à coup, deux ombres apparurent dans le cadre lumineux, deux ombres côte à côte. Puis, se rapprochant, elles n'en firent plus qu'une. Et un nouvel éclair, projetant sur la façade un rapide et éblouissant jet de feu, elle les vit qui s'embrassaient, les bras serrés autour du cou. Alors, éperdue, sans réfléchir, sans savoir ce qu'elle faisait, elle cria de toute sa force d'une voix suraiguë « Maman !» comme on crie pour avertir les gens d'un danger de mort. Son appel désespéré se perdit dans le clapotement de l'eau, mais le couple enlacé se sépara inquiet, et une des ombres disparut tandis que l'autre cherchait à distinguer quelque chose à travers les ténèbres du jardin. Alors, craignant d'être surprise, de rencontrer sa mère en cet instant, Yvette s'élança vers la maison, remonta précipitamment l'escalier en laissant derrière elle une traînée d'eau qui coulait de marche en marche, et elle s'enferma dans sa chambre, résolue à n'ouvrir sa porte à personne. Et sans ôter sa robe ruisselante et collée à sa chair, elle tomba sur les genoux en joignant les mains, implorant dans sa détresse quelque protection surhumaine, le secours mystérieux du ciel, l'aide inconnue qu'on réclame aux heures de larmes et de désespoir. Les grands éclairs jetaient d'un temps en temps leurs reflets livides dans la chambre, et elle se voyait brusquement dans la glace de son armoire avec ses cheveux déroulés et trempés, tellement étrange qu'elle ne se reconnaissait pas. Elle demeura là longtemps, si longtemps que l'orage s'éloigna sans qu'elle s'en aperçût. La pluie cessa de tomber, une lueur envahit le ciel encore obscurci de nuages, et une fraîcheur tiède, savoureuse, délicieuse, une fraîcheur d'herbes et de feuilles mouillées entrait par la fenêtre ouverte. Yvette se releva, ôta ses vêtements flasques et froids, sans songer même à ce qu'elle faisait, et se mit au lit. Puis elle demeura les yeux fixés sur le jour qui naissait. Puis elle pleura encore. Puis elle songea. Sa mère, un amant, mais quelle honte! Mais elle avait vu tant de livres où des femmes, même des mères, s'abandonnaient ainsi pour renaître à l'honneur aux pages du dénouement, qu'elle ne s'étonnait pas, outre mesure, de se trouver enveloppée dans un drame pareil à tous les drames de ses lectures. La violence de son premier chagrin, l'effarement cruel de la surprise s'atténuaient un peu déjà dans le souvenir confus de situations analogues. Sa pensée avait rôdé en des aventures si tragiques, poétiquement amenées par les romanciers, que l'horrible découverte lui apparaissait peu à peu comme la continuation naturelle de quelques feuilletons commencés la veille. Elle se dit « Oh, je sauverai ma mère !» Et presque rassérénée par cette résolution d'héroïne, elle se sentit forte, grande, prête tout à coup pour le dénouement et pour la lutte. Et elle réfléchit aux moyens qu'il lui faudrait employer. Un seul lui parut bon, qui était en rapport avec sa nature romanesque. Et elle prépara, comme un acteur prépare la scène qu'il va jouer, l'entretien qu'elle aurait avec la marquise. Le soleil s'était levé, Les serviteurs circulaient dans la maison. La femme de chambre vint avec le chocolat. Yvette fit poser le plateau sur la table et prononça « Vous direz à ma mère que je suis souffrante, que je vais rester au lit jusqu'au départ de ces messieurs, que je n'ai pas pu dormir de la nuit et que je prie qu'on ne me dérange pas parce que je veux essayer de me reposer. » La domestique, surprise, regardait la robe trempée et tombée comme une loque sur le tapis. « Mademoiselle est donc sortie ?» dit-elle. « Oui, j'ai été me promener sous la pluie pour me rafraîchir. » Et la bonne ramassa les jupes, les bas, les bottines sales. Puis elle s'en alla, portant sur un bras, avec des précautions dégoûtées, ses vêtements trempés comme des hardes de noyer. Et Yvette attendit, sachant bien que sa mère allait venir. La marquise entra, ayant sauté du lit au premier mot de la femme de chambre, car un doute lui était resté depuis ce cri « Maman !» entendu dans l'ombre. « Qu'est-ce que tu as ? » dit-elle. Yvette la regarda, bégaya « J'ai... » Puis saisie par une émotion subite et terrible, elle se mit à suffoquer. La marquise, étonnée, demanda de nouveau « Mais qu'est-ce que tu as donc ? » Alors, oubliant tous ses projets et ses phrases préparées, la jeune fille cacha sa figure dans ses deux mains en balbutiant « Oh maman ! Oh maman !» Madame Aubardy demeura debout devant le lit, trop émue pour bien comprendre, mais devinant presque tout avec cet instinct subtil d'où venait sa force. Comme Yvette ne pouvait parler, étranglée par les larmes, sa mère, énervée à la fin et sentant approcher une explication redoutable, demanda brusquement « Puis, me diras-tu ce qui te prend ?» Yvette put à peine prononcer « Oh, cette nuit, j'ai vu ta fenêtre. » La marquise, très pâle, articula « Eh bien quoi ?» Et sa fille répéta toujours en sanglotant « Oh maman, oh maman !» Madame Aubardy, dont la crainte et l'embarras se chargeaient de colère, haussa les épaules et se retourna pour s'en aller. « Mais je crois vraiment que tu es folle, quand ce sera fini, tu me le feras dire. » Mais la jeune fille, tout à coup, dégagea de ses mains son visage ruisselant de pleurs. « Non, écoute !» Il faut que je te parle, écoute. Tu vas me promettre. Nous allons partir toutes les deux, bien loin, dans une campagne. Et nous vivrons comme des paysans, des personnes ne sauront ce que nous serons devenus. Dis, veux-tu, maman, je t'en prie, je t'en supplie, veux-tu? La marquise, interdite, demeurait au milieu de la chambre. Elle avait aux veines du sang du peuple, du sang irascible. Puis une honte, une pudeur de mère se mêlant à un vague sentiment de peur et à une exaspération de femme passionnée dont l'amour est menacé, elle frémissait, prête à demander pardon ou à se jeter dans quelque violence. « Je te comprends pas, » dit-elle. Yvette reprit. « Mais je t'ai vu, maman, cette nuit. Il ne faut plus, oh, si tu savais. » Nous allons partir toutes les deux. Je t'aimerai tant que tu oublieras. » Madame Aubardy prononça d'une voix tremblante. « Écoute, ma fille, il y a des choses que tu comprends pas encore. Eh bien, n'oublie point que je te défends de me parler jamais de ces choses. » Mais la jeune fille, prenant brusquement le rôle de sauveur qu'elle s'était imposé, prononça « Non, maman, je ne suis plus une enfant, j'ai le droit de savoir. Eh bien, je sais que nous recevons des gens mal famés, des aventuriers. Je sais aussi qu'on ne nous respecte pas à cause de cela. Je sais autre chose encore. Eh bien, il faut plus, entends-tu? Je ne veux pas. Nous allons partir. Tu vendras tes bijoux. Nous travaillerons s'il le faut et nous vivrons comme des honnêtes gens, mais quelque part, bien loin. Mais si je trouve à me marier, tant mieux. Sa mère la regardait de son œil noir, irrité. Elle répondit: Mais tu es folle! Oh, tu vas me faire le plaisir de te lever et de venir déjeuner avec tout le monde. Non, maman, il y a quelqu'un ici que je ne recevrai pas, que je ne verrai pas, tu me comprends. Je veux qu'il sorte ou bien c'est moi qui sortirai. Tu choisiras entre lui et moi. Elle s'était assise dans son lit et elle haussait la voix, parlant comme on parle sur la scène, entrant enfin dans le drame qu'elle avait rêvé, oubliant presque son chagrin pour ne se souvenir que de sa mission. La marquise, stupéfaite, répéta encore une fois: Mais tu es folle! Ne trouvant rien d'autre chose à dire. Yvette reprit avec une énergie théâtrale: Non, maman, cet homme quittera la maison ou c'est moi qui m'en irai, car je ne faiblirai pas. Et où iras-tu? Que feras-tu? Je ne sais pas, peu importe, je veux que nous soyons des honnêtes femmes. Ce mot qui revenait, honnête femme, soulevait la marquise d'une fureur de fille et elle cria: Tais-toi, je ne te permets pas de me parler comme ça. Je vaux autant qu'une autre, entends-tu? Bon, je suis une courtisane, c'est vrai, j'en suis fière. Les honnêtes femmes ne me valent pas. Yvette, atterrée, la regardait. Elle balbutia: Oh, maman! Mais la marquise, s'exaltant, s'excitant: Eh bien oui, je suis une courtisane, et après? Si je n'étais pas une courtisane, moi, tu serais aujourd'hui une cuisinière, toi, comme j'étais autrefois, et tu ferais des journées de 30 sous, et tu laverais la vaisselle. Et ta maîtresse t'enverra à la boucherie, entends-tu? Et elle te ficherait à la porte si tu flânais, tandis que tu flânes toute la journée, parce que je suis une courtisane. Voilà. Quand on n'est rien qu'une bonne, une pauvre fille, avec 50 francs d'économie, il faut savoir se tirer d'affaire, si on ne veut pas crever dans la peau d'un meurt de faim. Et il n'y a pas deux moyens pour nous, il n'y en a pas deux, entends-tu, quand on est servante. Nous ne pouvons pas faire fortune, nous, avec des places, ni avec des tripotages de bourse. Nous n'avons rien que notre corps, rien que notre corps. Elle se frappait la poitrine comme un pénitent qui se confesse, et rouge, exaltée, avançant vers le lit. Tant pis, quand on est belle fille, faut vivre de ça, ou bien souffrir de misère toute sa vie. Toute sa vie! Pas de choix. Puis revenant brusquement à son idée, avec ça qu'elles s'en privent, les honnêtes femmes. C'est elles qui sont des gueuses, entends-tu, parce que rien ne les force. Elles ont de l'argent, de quoi vivre et s'amuser, et elles prennent des hommes pour par vice. C'est elles qui sont des gueuses. Elle était debout près de la couche d'Yvette, éperdue, qui avait envie de crier au secours, de se sauver. Et qui pleurait tout haut comme les enfants qu'on bat. La marquise se tut, regarda sa fille, et la voyant affolée de désespoir, elle se sentit elle-même pénétrée de douleur, de remords, d'attendrissement, de pitié, et s'abattant sur le lit en ouvrant les bras, elle se mit aussi à sangloter et elle balbutia: ma pauvre petite, si tu savais comme tu me fais mal. Et elles pleurèrent toutes deux très longtemps. Puis la marquise, chez qui le chagrin ne tenait pas, se releva doucement. Et elle dit tout bas: Allons, mignonne, c'est comme ça, que veux-tu? On n'y peut rien, changez maintenant. Faut prendre la vie comme elle vient. Yvette continuait de pleurer. Le coup avait été trop rude et trop inattendu pour qu'elle pût réfléchir et se remettre. Sa mère reprit. « Voyons, lève-toi et viens déjeuner pour qu'on ne s'aperçoive de rien. » La jeune fille faisait non de la tête sans pouvoir parler. Enfin, elle prononça d'une voix lente, pleine de sanglots. « Non, maman, tu sais ce que je t'ai dit, je ne changerai pas d'avis. Je ne sortirai pas de ma chambre avant qu'il soit parti. Je ne veux plus voir personne de ces gens-là, jamais, jamais. S'ils reviennent, tu ne me reverras plus. » La marquise avait essuyé ses yeux, et fatiguée d'émotion, elle murmura « Voyons, réfléchis, sois raisonnable. » Puis après une minute de silence, « Oui, il vaut mieux que tu te reposes ce matin, je viendrai te voir dans l'après-midi. » Ayant embrassé sa fille sur le front, elle sortit pour s'habiller, calmée déjà. Yvette, dès que sa mère eut disparu, se leva et courut pousser le verrou pour être seule, bien seule, puis elle se mit à réfléchir. La femme de chambre frappa vers 11 heures et demanda à travers la porte « Madame la marquise fait demander si mademoiselle n'a besoin de rien et ce qu'elle veut pour son déjeuner. » Yvette répondit « Je n'ai pas faim, je prie seulement qu'on ne me dérange pas. » Et elle demeura au lit comme si elle eût été fort malade. Vers 3 heures, on frappa de nouveau. Elle demanda « Qui est là ?» Ce fut la voix de sa mère. « C'est moi, mignonne, je viens voir comment tu vas. » Elle hésita. Que ferait-elle ? Elle ouvrit, puis se recoucha. La marquise s'approcha, et parlant à mi-voix comme auprès d'une convalescente, « Eh bien, te trouves-tu mieux ? Tu veux pas manger un œuf ?»« Non, merci, rien du tout. » Madame Aubardy s'était assise près du lit. Elles demeurèrent sans rien dire, puis enfin, comme sa fille restait immobile, les mains inertes sur les draps. « Ne vas-tu pas te lever ?» Yvette répondit. « Oui, tout à l'heure. » Puis d'un ton grave et lent, « J'ai beaucoup réfléchi, maman, et voici. Voici ma révolution. Le passé, n'en parlons plus. » Mais l'avenir sera différent, ou bien je sais ce qui me resterait à faire, et maintenant que ce soit fini là-dessus. » La marquise, qui croyait terminer l'explication, sentit un peu d'impatience la gagner. C'était trop maintenant, cette grande bécasse de fille aurait dû savoir depuis longtemps. Mais elle ne répondit rien et répéta « Te lèves-tu ? Oui, je suis prête. » Alors sa mère lui servit de femme de chambre, lui apportant ses bas, son corset, ses jupes, puis elle l'embrassa. « Veux-tu faire un tour avant dîner ?»« Oui, maman. » Et elles allèrent se promener le long de l'eau, sans guère parler que de choses très banales. Le lendemain, dès le matin, Yvette s'en alla toute seule s'asseoir à la place où sa Virginie lui avait lu l'histoire des fourmis. Elle se dit « Je ne m'en irai pas de là avant d'avoir pris une résolution. » Devant elle, à ses pieds, l'eau coulait, et l'eau rapide du bras vif, pleine de remous, de larges bouillons qui passaient dans une fuite muette, avec des tournoiements profonds. Elle avait déjà envisagé toutes les phases de la situation et tous les moyens d'en sortir. Que ferait-elle si sa mère ne tenait pas scrupuleusement à la condition qu'elle avait posée, ne renonçait pas à sa vie, à son monde, à tout, pour aller se cacher avec elle dans un pays lointain? Elle pourrait partir seule, fuir, mais où, comment, et de quoi vivrait-elle? En travaillant, à quoi? À qui s'adresserait-elle pour trouver de l'ouvrage? Et puis, l'existence morne et humble des ouvrières, des filles du peuple, lui semblait un peu honteuse, indigne d'elle. Elle songea à se faire institutrice, comme les jeunes personnes des romans, et à être aimée, puis épousée par le fils de la maison. Mais il aurait fallu qu'elle fût de grande race, qu'elle pût, quand le père exaspéré lui reprochait d'avoir volé l'amour de son fils, dire d'une voix fière: Je m'appelle Yvette Obardy. Elle ne le pouvait pas. Et puis c'eût été même encore là un moyen banal, usé. Le couvent, ne valait guère mieux. Elle ne se sentait d'ailleurs aucune vocation pour la vie religieuse, n'ayant qu'une piété intermittente et fugace. Personne ne pouvait la sauver en l'épousant, étant ce qu'elle était. Aucun secours n'était acceptable d'un homme, aucune issue possible, aucune ressource définitive. Et puis, elle voulait quelque chose d'énergique, de vraiment grand, de vraiment fort, qui servirait d'exemple. Et elle se résolut à la mort. Elle s'y décida tout d'un coup, tranquillement, comme s'il s'agissait d'un voyage, sans réfléchir, sans voir la mort, sans comprendre ce qu'est la fin, sans recommencement, le départ sans retour, l'adieu éternel à la terre, à la vie. Elle fut disposée immédiatement à cette détermination extrême, avec la légèreté des âmes exaltées et jeunes. Et elle songea aux moyens qu'elle emploierait. Mais tous lui apparaissaient d'une exécution pénible et hasardeuse, et demandaient en outre une action violente qui lui répugnait. Elle renonça bien vite aux poignards et aux revolvers qui peuvent blesser seulement, estropier ou défigurer, et qui exigent une main exercée et sûre, à la corde qui est commune, suicide de pauvres, ridicule et laid, à l'eau, parce qu'elle savait nager. Restait donc le poison, mais lequel? Presque tous font souffrir et provoquent des vomissements. Elle ne voulait ni souffrir ni vomir. Alors elle songea au chloroforme, ayant lu dans un fait divers comment avait fait une jeune femme pour s'asphyxier par ce procédé. Et elle éprouva aussitôt une sorte de joie de sa résolution, un orgueil intime, une sensation de fierté. On verrait ce qu'elle était, ce qu'elle valait. Elle rentra dans Bougival et elle se rendit chez le pharmacien à qui elle demanda un peu de chloroforme pour une dent dont elle souffrait. L'homme qui la connaissait lui donna une toute petite bouteille de narcotique. Alors elle partit à pied pour Croissy où elle se procura une seconde fiole de poison. Elle en obtint une troisième à Chatou, une quatrième à Rueil et elle rentra en retard pour déjeuner. Comme elle avait grand faim après cette course, elle mangea beaucoup avec ce plaisir des gens que l'exercice a creusé. Sa mère, heureuse de l'avoir affamée ainsi, se sentant tranquille enfin, lui dit, comme elle se levait de table: Tous nos amis viendront passer la journée de dimanche. J'ai invité le prince, le chevalier et Monsieur de Bellevigne. Yvette pâlit un peu mais ne répondit rien. Elle sortit presque aussitôt, gagna la gare et prit un billet pour Paris. Et pendant tout l'après-midi, elle alla de pharmacie en pharmacie, achetant dans chacune quelques gouttes de chloroforme. Elle revint le soir, les poches pleines de petites bouteilles. Elle recommença le lendemain ce manège. Et étant entrée par hasard chez un droguiste, elle put obtenir d'un seul coup un quart de litre. Elle ne sortit pas le samedi. C'était un jour couvert et tiède. Elle le passa tout entier sur la terrasse, étendue sur une chaise longue en osier. Elle ne pensait presque à rien, très résolue et très tranquille. Elle mit le lendemain une toilette bleue qui lui allait fort bien, voulant être belle. En se regardant dans sa glace, elle se dit tout d'un coup: Demain, je serai morte. Mais un singulier frisson lui passa le long du corps. Morte. Je ne parlerai plus, je ne penserai plus. Personne ne me verra plus. Et moi, je ne verrai plus rien de tout cela. Elle contemplait attentivement son visage comme si elle ne l'avait jamais aperçu, examinant surtout ses yeux, découvrant mille choses en elle, un caractère secret de sa physionomie qu'elle ne connaissait pas, s'étonnant de se voir comme si elle avait en face d'elle une personne étrangère, une nouvelle amie. Elle se disait « c'est moi que voilà dans cette glace, comme c'est étrange de se regarder soi-même. Sans le miroir, cependant, nous ne nous connaîtrions jamais. Tous les autres sauraient comment nous sommes et nous ne le saurions point, nous. » Elle prit ses grands cheveux tressés en nattes et les ramena sur sa poitrine, suivant de l'œil tous ses gestes, toutes ses poses, tous ses mouvements. « comme je suis jolie !» pensa-t-elle. « Demain, je serai morte là, sur mon lit. » Elle regarda son lit, et il lui sembla qu'elle se voyait étendue, blanche comme ses draps. Morte. Dans 8 jours, cette figure, ses yeux, ses joues, ne seront plus qu'une pourriture noire dans une boîte au fond de la terre. Une horrible angoisse lui serra le cœur. Le clair soleil tombait à flots sur la campagne et l'air doux du matin entrait par la fenêtre. Elle s'assit, pensant à cela, morte. C'était comme si le monde allait disparaître pour elle. Mais non, puisque rien ne serait changé dans ce monde, pas même sa chambre. Oui, sa chambre resterait toute pareille, avec le même lit, les mêmes chaises, la même toilette. Mais elle serait partie pour toujours, elle, et personne ne serait triste, que sa mère, peut-être. On dirait, comme elle était jolie, cette petite Yvette, voilà tout. Et comme elle regardait sa main appuyée sur le bras de son fauteuil, elle songea de nouveau à cette pourriture, à cette bouillie noire et puante que ferait sa chair. Et de nouveau un grand frisson d'horreur lui courut dans tout le corps, et elle ne comprenait pas bien comment elle pourrait disparaître sans que la terre tout entière s'anéantît, tant il lui semblait qu'elle faisait partie de tout, de la campagne, de l'air, du soleil et de la vie. Des rires éclatèrent dans le jardin, un grand bruit de voix, des appels, cette gaieté bruyante des parties de campagne qui commencent, et elle reconnut l'organe sonore de M. Bellevigne qui chantait « Je suis sous ta fenêtre, daigne enfin paraître !» Elle se leva, sans réfléchir, et vint regarder. Tous applaudirent, ils étaient là, tous les 5, avec 2 autres messieurs qu'elle ne connaissait pas. Elle se recula brusquement, déchirée par la pensée que ces hommes venaient s'amuser chez sa mère, chez une courtisane. La cloche sonna le déjeuner. « Je vais leur montrer comment on meurt, » se dit-elle. Et elle descendit d'un pas ferme, avec quelque chose de la résolution des martyrs chrétiennes, entrant dans le cirque où les lions les attendaient. Elle serra les mains en souriant d'une manière affable, mais un peu hautaine. Servigny lui demanda « Êtes-vous moins grognon aujourd'hui, mamselle ?» Elle répondit d'un ton sévère et singulier « Aujourd'hui, oh, je veux faire des folies. Je suis dans mon humeur de Paris. Prenez garde !» Puis se tournant vers M. de Bellevigne, « C'est vous qui serez mon patito, mon petit malvoisi. Je vous emmène tous après le déjeuner à la fête de Marly. » C'était la fête, en effet, à Marly. On lui présenta les 2 nouveaux venus, le comte de Tamines et le marquis de Briqueteau. Pendant le top repas, elle ne parla guère, tendant sa volonté pour être gaie dans l'après-midi, pour qu'on ne devine à rien, et pour qu'on s'étonnât davantage, et pour qu'on dit « Mais qui l'aurait pensé ? Elle semblait si heureuse, si contente. Oh, mais que se passe-t-il dans ces têtes-là » Elle s'efforçait de ne point songer au soir, à l'heure choisie, alors qu'ils seraient tous sur la terrasse. Elle but du vin le plus qu'elle put pour se monter et deux petits verres de fine champagne. Et elle était rouge en sortant de table, un peu étourdie, ayant chaud dans le corps et chaud dans l'esprit, lui semblait-il, devenue hardie maintenant et résolue à tout. « En route » cria-t-elle. Elle prit le bras de M. de Bellevigne et régla la marche des autres. « Alors vous allez former mon bataillon. Servigny, je vous nomme sergent. Vous vous tiendrez en dehors, sur la droite. Puis vous ferez marcher en tête la garde étrangère, les deux exotiques, le prince et le chevalier. Puis derrière les deux recrues qui prennent les armes aujourd'hui. Allons !» Ils partirent. Et Servigny se mit à imiter le clairon, tandis que les deux nouveaux venus faisaient semblant de jouer du tambour. Monsieur de Béligne, un peu confus, disait tout bas, « Mademoiselle Yvette, soyez raisonnable, vous allez nous compromettre. » Elle répondit, « Mais c'est vous que je compromets, résigné. Quant à moi, je m'en fiche un peu, oh, demain il n'y paraîtra plus. » Tant pis pour vous, il faut pas sortir avec des filles comme moi. Ils traversèrent Bougival à la stupéfaction des promeneurs. Tout se retournait. Les habitants venaient sur leurs portes, les voyageurs du petit chemin de fer qui va de Rueil à Marly les huèrent. Les hommes, debout sur les plateformes, criaient « Allô, allô !» Yvette marchait d'un pas militaire, tenant par le bras Bellevigne, comme on mène un prisonnier. Elle ne riait point, gardant sur le visage une gravité pâle, une sorte d'immobilité sinistre. Servigny interrompait son clairon pour hurler des commandements. Le prince et le chevalier s'amusaient beaucoup, trouvaient ça très drôle et de haut goût. Les deux jeunes gens jouaient du tambour d'une façon ininterrompue. Quand ils arrivèrent sur le lieu de la fête, ils soulevèrent une émotion. Les filles applaudirent, des jeunes gens ricanaient. Un gros monsieur qui donnait le bras à sa femme déclara avec une envie dans la voix « Ah ben voilà qui s'embête pas !» Elle aperçut des chevaux de bois et força Bellevigne à monter à sa droite, tandis que son détachement escaladait par derrière les bêtes tournantes. Quand le divertissement fut terminé, elle refusa de descendre, contraignant son escorte à demeurer 5 fois de suite sur le dos de ses montures d'enfant, à la grande joie du public qui criait des plaisanteries. Monsieur de Bellevigne, livide, avait mal au cœur en descendant. Puis elle se mit à vagabonder à travers les baraques. Elle força tous ses hommes à se faire poser, peser au milieu d'un cercle de spectateurs. Elle leur fit acheter des jouets ridicules qu'ils durent porter dans leurs bras. Le prince et le chevalier commençaient à trouver la plaisanterie trop forte. Seuls, Servigny et les deux tambours ne se décourageaient pas. Ils arrivèrent enfin au bout du pays. Alors elle contempla ses suivants d'une façon singulière, d'un œil sournois et méchant. Et une étrange fantaisie lui passant par la tête, elle les fit ranger sur la berge droite qui domine le fleuve. « Que celui qui m'aime le plus se jette à l'eau » dit-elle. Personne ne sauta. Un attroupement se forma derrière eux. Des femmes en tablier blanc regardaient avec stupeur. Deux troupiers en culotte rouge riaient d'un air bête. Elle répéta, « Donc il n'y a pas un de vous capable de se jeter à l'eau sur le désir de moi. » Servigny murmura, « Ma foi, tant pis. » Et il s'élança debout dans la rivière. Sa chute jeta des éclaboussures jusqu'au pied d'Yvette. Un murmure d'étonnement et de gaieté s'éleva dans la foule. Alors la jeune fille ramassa par terre un petit morceau de bois et le lança dans le courant. « Apporte !» cria-t-elle. Le jeune homme se mit à nager et saisissant dans sa bouche, à la façon d'un chien, la planche qui flottait, il la rapporta, puis remontant la berge, il mit un genou par terre pour la présenter. Yvette la prit. « T'es beau !» dit-elle. Et d'une tape amicale, elle caressa ses cheveux. Une grosse dame indignée déclara « Si c'est possible !» Un autre dit « Oh, peut-on s'amuser comme ça ?» Un homme prononça « Oh, c'est pas moi qui me serais baigné pour une donzelle !» Elle reprit le bras de Bellevigne en lui jetant dans la figure « Vous n'êtes qu'un oiseau, mon ami. Vous ne savez pas ce que vous avez raté. » Ils revinrent. Elle jetait aux passants des regards irrités. Oh, « Comme tous ces gens ont l'air bêtes !» dit-elle. Puis levant les yeux vers le visage de son compagnon, « Vous aussi, d'ailleurs !» Monsieur de Bellevigne salua. S'étant retournée, elle vit que le prince et le chevalier avaient disparu. Servigny, morne et ruisselant, ne jouait plus de clairon et marchait d'un air triste à côté des deux jeunes gens fatigués qui ne jouaient plus de tambour. Elle se mit à rire sèchement. « Vous en avez assez, paraît-il. Voilà pourtant ce que vous appelez vous amuser, n'est-ce pas ? Vous êtes venu pour ça ? Je vous en ai donné pour votre argent ?» Puis elle marcha sans plus rien dire, et tout d'un coup Bellevigne s'aperçut qu'elle pleurait. Effaré, il demanda « Mais qu'avez-vous ? » Elle murmura « Laissez-moi, cela ne vous regarde pas. » Mais il insistait comme un sot. « Oh, mademoiselle, voyons, qu'est-ce que vous avez ? On vous a fait de la peine ?» Elle répéta avec impatience, « Mais taisez-vous donc !» Puis, brusquement, ne résistant plus à la tristesse désespérée qui lui noyait le cœur, elle se mit à sangloter si violemment qu'elle ne pouvait plus avancer. Et elle couvrait sa figure sous ses deux mains et haletait avec des râles dans la gorge, étranglée, étouffée par la violence de son désespoir. Bellevigne demeurait debout à côté d'elle, tout à fait éperdu, répétant « Mais j'y comprends rien !» Mais Servigny s'avança brusquement. « Entrons, mamselle, qu'on vous voit pas pleurer dans la rue. Pourquoi faites-vous des folies comme ça, puisque ça vous attriste ?» Et lui prenant le coude, il l'entraîna. Mais dès qu'ils arrivèrent à la grille de la villa, elle se mit à courir, traversa le jardin, monta l'escalier et s'enferma chez elle. Elle ne reparut qu'à l'heure du dîner, très pâle, très grave. Tout le monde était gai, cependant. Servigny avait acheté chez un marchand du pays des vêtements d'ouvrier, un pantalon de velours, une chemise à fleurs, un tricot, une blouse, et il parlait à la façon des gens du peuple. Yvette avait hâte qu'on eût fini, sentant son courage défaillir. Dès que le café fut pris, elle remonta chez elle. Elle écoutait, désespérée, les voix joyeuses sous sa fenêtre. Le chevalier faisait des plaisanteries lestes, des jeux de mots d'étrangers, grossiers et maladroits. Servigny, un peu gris, imitait l'ouvrier Pochard, appelait la marquise la patronne. Et tout d'un coup, il dit à Saval, « Hé, patron !» Ce fut un rire général. Alors Yvette se décida. Elle prit d'abord une feuille de son papier à lettres et écrivit « Bougival, ce dimanche 9h du soir, je meurs pour ne point devenir une fille entretenue, Yvette. » Puis en post-scriptum, « Adieu, chère maman, pardon. » Elle cacheta l'enveloppe adressée à Madame la marquise Obardi. Puis elle roula sa chaise longue auprès de la fenêtre, attira une petite table à portée de sa main et plaça dessus la grande bouteille de chloroforme à côté d'une poignée de ouates. Un immense rosier couvert de fleurs qui partit de la terrasse montait jusqu'à sa fenêtre, exhalait dans la nuit un parfum doux et faible, passant par souffle léger, et elle demeura quelques instants à le respirer. La lune, à son premier quartier, flottait dans le ciel noir, un peu rongé à gauche et voilé parfois par de petites brumes. Yvette pensait « Je vais mourir, je vais mourir. » Et son cœur, gonflé de sanglots, crevant de peine, l'étouffait. Elle sentait en elle un besoin de demander grâce à quelqu'un, d'être sauvée, d'être aimée. La voix de Servigny s'éleva. Il racontait une histoire graveleuse que des éclats de rire interrompaient à tout instant. La marquise elle-même avait des gaietés plus fortes que les autres. Elle répétait sans cesse « Il n'y a que lui pour dire de ces choses-là. » Yvette prit la bouteille, la déboucha et versa un peu de liquide sur le coton. Une odeur puissante, sucrée, étrange se répandit, et comme elle approchait de ses lèvres le morceau d'ouate, elle avala brusquement cette saveur forte et irritante qui la fit tousser. Alors, fermant la bouche, elle se mit à l'aspirer. Elle buvait à longs traits cette vapeur mortelle, fermant les yeux et s'efforçant d'éteindre en elle toute pensée pour ne plus réfléchir, pour ne plus savoir. Il lui sembla d'abord que sa poitrine s'élargissait, s'agrandissait, et que son âme, tout à l'heure pesante, alourdie de chagrin, devenait légère, légère, comme si le poids qui l'accablait se fût soulevé, allégé, envolé. Quelque chose de vif et d'agréable la pénétrait jusqu'au bout des membres, jusqu'au bout des pieds et des mains, entrait dans sa chair une sorte d'ivresse vague de fièvre douce. Elle s'aperçut que le coton était sec et elle s'étonna de n'être pas encore morte. Ses sens lui semblaient aiguisés, plus subtils, plus alertes. Elle entendait jusqu'aux moindres paroles prononcées sur la terrasse. Le prince Kravalov racontait comment il avait tué en duel un général autrichien. Puis très loin, dans la campagne, elle écoutait les bruits dans la nuit, les aboiements interrompus d'un chien, le cri court des crapauds, le frémissement imperceptible des feuilles. Elle reprit la bouteille et imprégna de nouveau le petit morceau de ouate, puis elle se remit à respirer. Pendant quelques instants, elle ne ressentit plus rien. Puis ce lent et charmant bien-être qui l'avait envahi déjà la ressaisit. Dès lors, elle versa du chloroforme dans le coton, avide maintenant de cette sensation physique et de cette sensation morale, de cette torpeur rêvante où s'égarait son âme. Il lui semblait qu'elle n'avait plus d'eau, plus de chair, plus de jambes, plus de bras. On lui avait ôté tout cela, doucement, sans qu'elle s'en aperçût. Le chloroforme avait vidé son corps, ne lui laissant que sa pensée plus éveillée, plus vivante, plus large, plus libre qu'elle ne l'avait jamais sentie. Elle se rappelait mille choses oubliées, des petits détails de son enfance, des riens qui lui faisaient plaisir. Son esprit, doué tout à coup d'une agilité inconnue, sautait aux idées les plus diverses, parcourait mille aventures, vagabondait dans le passé et s'égarait dans les événements espérés de l'avenir. Et sa pensée active et nonchalante avait un charme sensuel. Elle éprouvait à songer ainsi un plaisir divin. Elle entendait toujours les voix, mais elle ne distinguait plus les paroles qui prenaient pour elle d'autres sens. Elle s'enfonçait, elle s'égarait dans une espèce de féerie étrange et variée. Elle était sur un grand bateau qui passait le long d'un beau pays tout couvert de fleurs. Elle voyait des gens sur la rive, Et si j'en parlais très fort, puis elle se trouvait à terre, sans se demander comment. Et Servigny, habillé en prince, venait la chercher pour la conduire à un combat de taureaux. Les rues étaient pleines de passants qui causaient, et elle écoutait ces conversations qui ne l'étonnaient point, comme si elle eût connu les personnes, car à travers son ivresse rêvante, elle entendait toujours rire et causer les amis de sa mère sur la terrasse. Puis tout devint vague. Puis elle se réveilla, délicieusement engourdie, et elle eut quelque peine à se souvenir. Donc elle n'était pas morte encore. Mais elle se sentait si reposée, dans un tel bien-être physique, dans une telle douceur d'esprit, qu'elle ne se hâtait point d'en finir. Elle voulut faire durer toujours cet état d'assoupissement exquis. Elle respirait lentement et regardait la lune en face d'elle sur les arbres. Quelque chose était changé dans son esprit. Elle ne pensait plus comme tout à l'heure. Le chloroforme, en amollissant son corps et son âme, avait calmé sa peine et endormi sa volonté de mourir. Et pourquoi ne vivrait-elle pas? Pourquoi ne serait-elle pas aimée? Pourquoi n'aurait-elle pas une vie heureuse? Tout lui paraissait possible maintenant, et facile et certain. Tout était doux, tout était bon, tout était charmant dans la vie. Mais comme elle voulait songer toujours, elle versa encore cette eau de rêve sur le coton et se remit à respirer en écartant parfois le poison de sa narine pour n'en pas absorber trop, pour ne pas mourir. Elle regardait la lune et voyait une figure dedans, une figure de femme. Elle recommençait à battre la campagne dans la griserie imagée de l'opium. Cette figure se balançait au milieu du ciel. Puis elle chantait avec une voix bien connue, l'Alléluia d'amour. C'était la marquise qui venait de rentrer pour se mettre au piano. Yvette avait des ailes maintenant. Elle volait la nuit par une belle nuit claire au-dessus des bois et des fleuves. Elle volait avec délices, ouvrant les ailes, battant des ailes, portée par le vent comme on serait porté par des caresses. Elle se roulait dans l'air qui lui baisait la peau, et elle filait si vite, qu'elle n'avait le temps de rien voir au-dessous d'elle, et elle se trouvait assise au bord d'un étang, une ligne à la main. Elle pêchait. Quelque chose tirait sur le fil qu'elle sortait de l'eau, en amenant un magnifique collier de perles dont elle avait eu envie quelque temps auparavant. Elle ne s'étonnait nullement de cette trouvaille, et elle regardait Servigny, venu à côté d'elle, sans qu'elle sût comment, pêchant aussi et faisant sortir de la rivière un cheval de bois. Puis elle eut de nouveau la sensation qu'elle se réveillait, et elle entendit qu'on l'appelait en bas. Sa mère avait dit « Éteins donc la bougie !» Puis la voix de Servigny se leva claire et comique « Éteignez donc votre bougie, mademoiselle Yvette !» Et tous reprirent en chœur « Mademoiselle Yvette, éteignez donc votre bougie !» Elle versa de nouveau du chloroforme dans le coton. Mais comme elle ne voulait pas mourir, elle le tint assez loin de son visage pour respirer de l'air frais, tout en répandant en sa chambre l'odeur asphyxiante du narcotique, car elle comprit qu'on allait monter, pendant une posture bien abandonnée, une posture de morte. Elle attendit. La marquise disait « Je suis un peu inquiète, cette petite folle s'est endormie en laissant la lumière sur sa table. » Oh, je vais envoyer Clémence pour l'éteindre et pour fermer la fenêtre de son balcon qui restait grande ouverte. » Et bientôt, la femme de chambre heurta la porte en appelant « Mademoiselle, mademoiselle !» Après un silence, elle reprit Mademoiselle, madame la marquise vous prie d'éteindre votre bougie et de fermer votre fenêtre. Clémence attendit encore un peu, puis frappa plus fort en criant « Mademoiselle, mademoiselle !» Comme Yvette ne répondait pas, la domestique s'en alla et dit à la marquise « Mademoiselle est endormie, sans doute, son verrou est poussé, je ne peux pas la réveiller. » Madame Bobardi murmura « Elle va pourtant pas rester comme ça !» Tous alors, sur le conseil de Servigny, se réunirent sous la fenêtre de la jeune fille et hurlèrent en chœur « Hip, 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 hourra, mademoiselle Yvette !» Leur clameur s'éleva dans la nuit calme, s'envola sous la lune dans l'air transparent, s'en alla sur le pays dormant, et ils l'entendirent s'éloigner ainsi que fait le bruit d'un train qui fuit. Comme Yvette ne répondit pas, la marquise prononça « Au pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé, je commence à avoir peur. » Alors Servigny, cueillant les roses rouges du gros rosier poussées le long du mur et des boutons pas encore éclos, se mit à les lancer dans la chambre par la fenêtre. Au premier qu'elle reçut, Yvette tressauta, faillit crier. D'autres tombaient sur sa robe, d'autres dans ses cheveux, d'autres, passant par-dessus sa tête, allaient jusqu'au lit, le couvraient d'une pluie de fleurs. La marquise cria encore une fois d'une voix étranglée, « Voyons, Yvette, réponds-nous !» Alors Servigny déclara, « Vraiment, ce n'est pas naturel. Je vais grimper par le balcon. » Mais le chevalier s'indigna. « Oh, permettez, permettez, c'est là une grosse faveur, je réclame. C'est un trop bon moyen, un trop bon moment pour obtenir un rendez-vous. » Tous les autres qui croyaient à une farce de la jeune fille s'écriaient « Nous protestons, c'est un coup monté, montera pas, montera, montera pas. » Mais la marquise émue répétait « Il faut pourtant qu'on aille voir. » Le prince déclara avec un geste dramatique « Elle favorise le duc, nous sommes trahis. »« Jouons un pile ou face, qui montera ?» demanda le chevalier. Et il tira de sa poche une pièce d'or de 100 francs. Il commença avec le prince. « Pile » dit-il. Ce fut face. Le prince jeta la pièce à son tour en disant à sa valle « Prononcez, monsieur !» Saval prononça « Face !» Ce fut pile. Le prince ensuite posa la même question à tous les autres, tous perdirent. Servigny, qui restait seul en face de lui, déclara de son air insolent « Parbleu, il triche !» Le russe mit la main sur son cœur et tendit la pièce d'or à son rival en disant « Mais jouez vous-même, mon cher duc !» Servigny la prit et la lança en criant « Face !» Ce fut pile. Il salua et indiqua de la main le pilier du balcon. « Montez, mon prince !» Mais le prince regardait autour de lui d'un air inquiet. « Que cherchez-vous » demanda le chevalier. « Ben, je voudrais bien une échelle !» Un rire général éclata. Et Saval s'avançant, mais nous allons vous aider. Il enleva dans ses bras d'Hercule en recommandant accrochez-vous au balcon. Le prince aussitôt s'accrocha et Saval l'ayant lâché, il demeura suspendu, agitant ses pieds dans le vide. Alors Servigny, saisissant ses jambes affolées qui cherchaient un point d'appui, tira dessus de toute sa force, les mains lâchèrent et le prince tomba comme un bloc sur le ventre de M. Bellevigne, qui s'avançait pour le souvenir. « À qui le tour ?» demanda Servigny. Mais personne ne se présenta. « Voyons, Bellevigne, de l'audace !»« Oh, merci, mon cher, je tiens à mes os. Voyons, chevalier, vous devez avoir l'habitude des escalades. Je vous cède la place, mon cher duc. Ce que je tiens plus tant que ça. Et Servigny, l'œil en éveil, tournait autour du pilier. Puis d'un saut, s'accrochant au balcon, il s'enleva par les poignets, fit un rétablissement comme un gymnaste et franchit la balustrade. Tous les spectateurs, le nez en l'air, applaudissaient. Mais il reparut aussitôt en criant « Venez vite, venez vite ! Yvette est sans connaissance !» La marquise poussa un grand cri et s'élança dans l'escalier. La jeune fille, les yeux fermés, faisait la morte. Sa mère entra affolée et se jeta sur elle. « Dites, qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ?» Servigny ramassait la bouteille de chloroforme tombée sur le parquet. « Elle s'est asphyxiée, » dit-il. Et il colla son oreille sur le cœur, puis il ajouta « Mais elle n'est pas morte. Nous la ranimerons. Avez-vous ici de l'ammoniaque ?» La femme de chambre éperdue répétait « De quoi, monsieur, de quoi ?» De l'eau sédative. Oui, monsieur. Apportez tout de suite et laissez la porte ouverte pour établir un courant d'air. La marquise, tombée sur les genoux, sanglotait. Yvette, Yvette, ma fille, ma petite fille, ma fille, écoute, réponds-moi, Yvette, mon enfant. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a ? Et les hommes, effarés, remués sans rien faire, apportaient de l'eau, des serviettes, des verres, du vinaigre. Quelqu'un dit « Il faut la déshabiller !» Et la marquise, qui perdait la tête, essaya de dévêtir sa fille, mais elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Ses mains tremblaient, s'embrouillaient, se perdaient, et elle gémissait « Je peux pas, je peux pas !» La femme de chambre était rentrée apportant une bouteille de pharmacien que Servigny déboucha et dont il versa la moitié sur un mouchoir. Puis il le colla sous le nez d'Yvette, qui eut une suffocation. « Bon, elle respire, dit-il, ça ne sera rien. » Et il lui lava les tempes, les joues, le cou, avec le liquide de la rue de Santerre. Puis il fit signe à la femme de chambre de délasser la jeune fille, et quand il n'eut plus qu'une jupe sur sa chemise, il l'enleva dans ses bras et la porta jusqu'au lit en frémissant, remué par l'odeur de ce corps presque nu, par le contact de cette chair, par la moiteur des seins à peine cachés qu'il faisait fléchir sous sa bouche. Lorsqu'elle fut couchée, il se releva fort pâle. « Elle va revenir à elle, dit-il, ce n'est rien. » Car il l'avait entendu respirer d'une façon continue et régulière. Mais, apercevant tous les hommes, les yeux fixés sur Yvette étendue en son lit, une irritation jalouse le fit tressaillir, et s'avançant vers eux, « Messieurs, nous sommes beaucoup trop dans cette chambre. Veuillez nous laisser seuls, monsieur Saval et moi, avec la marquise. » Il parlait d'un ton sec et plein d'autorité. Les autres s'en allèrent aussitôt. Madame Bobardi avait saisi son amant à plein bras et la tête levée vers lui et lui criait « Sauvez-la, oh, sauvez-la !» Mais Servigny, s'étant retourné, vit une lettre sur la table. Il la saisit d'un mouvement rapide et lut l'adresse. Il comprit et pensa « Peut-être ne faut-il pas que la marquise ait connaissance de cela. » Et déchirant l'enveloppe, il parcourut d'un regard les deux lignes qu'elle contenait. « Je meurs pour ne pas devenir une fille entretenue. Yvette, adieu, ma chère maman, pardon. »« Diable !» pensa-t-il, ça demande réflexion. Et il cacha la lettre dans sa poche. Puis il se rapprocha du lit. Et aussitôt la pensée lui vint que la jeune fille avait repris connaissance, mais qu'elle n'osait pas le montrer par honte, par humiliation, par crainte des questions. La marquise était tombée à genoux maintenant et elle pleurait, la tête sur le pied du lit. Tout à coup, elle prononça « Un médecin, il faut un médecin !» Mais Servigny, qui venait de parler bas avec Saval, lui dit « Non, non, c'est fini. Tenez, allez-vous-en une minute, rien qu'une minute, et je vous promets qu'elle vous embrassera quand vous reviendrez. » Et le baron, soutenant Madame Aubardy par le bras, l'entraîna. Alors Servigny, s'asseyant près de la couche, prit la main d'Yvette et prononça « Mademoiselle, écoutez-moi. » Elle ne répondit pas. Elle se sentait si bien, si doucement, si chaudement couchée, qu'elle aurait voulu jamais ne plus remuer, ne plus jamais parler, et vivre comme ça, toujours. Un bien-être infini l'avait envahie, un bien-être tel qu'elle n'en avait jamais senti de pareil. L'air tiède de la nuit entrant par souffle léger, par souffle de velours, lui passait de temps en temps sur la face d'une façon exquise, imperceptible. C'était une caresse, quelque chose comme un baiser du vent, comme l'haleine lente et rafraîchissante d'un éventail qui aurait été fait de toutes les feuilles des bois, de toutes les ombres de la nuit, de la brume des rivières et de toutes les fleurs aussi, car les roses jetées d'en bas dans sa chambre et sur son lit, et les roses grimpées au balcon, mêlaient leur senteur languissante à la saveur saine de la brise nocturne. Elle buvait cet air si bon, les yeux fermés, le cœur reposé dans l'ivresse encore persistante de l'opium. Elle n'avait plus du tout le désir de mourir, mais une envie forte, impérieuse de vivre, d'être heureuse, n'importe comment, d'être aimée, oui, aimée. Servigny répéta, « Mademoiselle Yvette, écoutez-moi. » Et elle se décida à ouvrir les yeux. Il reprit, la voyant animée, « Voyons, voyons, qu'est-ce que c'est que des folies pareilles ?» Elle murmura, « Mon pauvre Muscade, j'avais tant de chagrin. » Il lui serra la main paternellement. « Et c'est ça qui vous avançait à grand-chose ? Oh oui ! Voyons, vous allez me promettre de ne pas recommencer !» Elle ne répondit pas, mais elle fit un petit mouvement de tête qu'accentuait un sourire plutôt sensible que visible. Il tira de sa poche la lettre trouvée sur la table. « Est-ce qu'il faut montrer cela à votre mère ?» Elle fit non d'un signe du front. Il ne savait plus que dire, car la situation lui paraissait sans issue. Il murmura, « Ma chère petite, il faut prendre son parti des choses les plus pénibles. Je comprends bien votre douleur, et je vous promets. » Elle balbutia, « Vous êtes bon. » Ils se turent, ils la regardaient. Elle avait dans l'œil quelque chose d'attendri, de défaillant. Et tout d'un coup, elle souleva les deux bras, comme si elle eût voulu l'attirer. Il se pencha sur elle, sentant qu'elle l'appelait, et leurs lèvres s'unirent. Longtemps, ils restèrent ainsi, les yeux fermés. Mais lui, comprenant qu'il allait perdre la tête, se releva. Elle lui souriait maintenant d'un vrai sourire de tendresse. Et de ses deux mains accrochées aux épaules, elle le retenait. « Je vais chercher votre mère, » dit-il. Elle murmura, « Encore une seconde, je suis si bien. » Puis après un silence, elle prononça tout bas, si bas qu'il l'entendit à peine, « Vous m'aimerez bien, dites. » Il se genouilla près du lit et baisant le poignet qu'elle lui avait laissé, « Je vous adore. » Mais on marchait près de la porte. Il se releva d'un bond et cria de sa voix ordinaire, qui semblait toujours un peu ironique, « Vous pouvez entrer. C'est fait maintenant. » La marquise s'élança sur sa fille, les deux bras ouverts. Elle étreignit frénétiquement, couvrant de larmes son visage. Tandis que Servigny, l'âme radieuse, la chair émue, s'avançait sur le balcon pour respirer le grand air frais de la nuit, en fredonnant. Souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie.